l'art est un produit comme les haricots. On achète de l'art comme on achète du spaghetti.
Deuxième partie de cette émission, comme prévu, sous le signe de Marcel Duchamp, auquel deux biographies sont consacrées. L'une est signée Judith Ouzet, elle est publiée chez Grasset. Nous n'en parlerons pas avec elle puisqu'elle s'est volatilisée dans la nature après avoir accepté notre invitation. La deuxième biographie de Marcel Duchamp, celle dont nous avons envie de parler, ça tombe bien, c'est celle qui est signée du critique d'art, commissaire d'exposition, enseignant, Bernard Marcadet. Elle est publiée chez Flammarion. Et deuxième invité pour cette deuxième partie, Paul B. Franklin, je devrais dire Franklin ou...
Franklin,
ce serait mieux. Historien d'art, journaliste, rédacteur en chef de la revue Étant donné, Marcel Duchamp, publication. Alors peut-être dont il convient tout d'abord de nous dire ici, en préambule, l'objet, le projet, la philosophie, en vous rapprochant un peu du micro.
Oui, tout à fait. Étant donné, est une publication annuelle qui existe depuis 1999, fondée par deux Français. Et moi, j'ai assumé la rédaction à partir de numéro 3 en 2000. Et en ce moment-là, j'ai décidé avec Madame Jacqueline Mathis-Monnier, la belle-fille de Duchamp, de publier une revue consacrée à la vie et l'œuvre de Marcel Duchamp, mais en anglais et en français.
Des responsabilités qu'il y a dans ce sujet,
nous,
énormément
la vie
de volonté
et de Duchamp
si existe feront qu'on puisse
langues.
Sortir de cette affaire. Je le sens, mais jusqu'à ce qu'on ne mette pas le cas de maman comme la priorité
anglais,
que cela doit être en France, parce que c'est une otage française, parce que on ne peut pas continuer à accepter qu'après un...
Exactement. Et ma philosophie, si je peux utiliser ce mot, c'est très simple. C'est un travail près des sources. Pour moi, je suis historien d'art et ce sont les documents qui m'intéressent, soit les écrits, soit les photos, soit les œuvres d'art. Donc, on essaie de combler les trous dans la vie de Duchamp avec les dossiers qui sont thématiques et qui explorent certainement et normalement une relation que Duchamp a eue avec quelqu'un. Parce que pour nous, Duchamp et pour moi, Duchamp était avant tout un homme. Et il a toujours détesté le mot artiste. Il a toujours préféré d'être bricoleur avant artiste. Et pour moi, j'essaie, dans étant donné, de bricoler un peu autour de sa vie et son œuvre, qui sont inséparables pour moi.
Finalement, Bernard Marcadet, ça tombe du coup très bien que vous soyez ici ensemble, puisque l'hypothèse qui vous fait écrire cette biographie de Duchamp, c'est que au contact, au plus près sera-t-on de sa vie, au plus près sera-t-on de son œuvre, au mieux la comprendra-t-on. Il y a cette phrase évidemment fameuse d'Henri-Pierre Rocher, la plus belle œuvre de Marcel Duchamp a été l'emploi de son temps. C'est là-dessus que vous partez vous-même.
Oui, c'est un peu le... C'est ce qui me... J'ai développé cette intuition. C'est même pas une intuition, c'est une phrase importante de Rocher sur Duchamp qui connaissait bien Duchamp, qui le pratiquait bien à tous les sens du terme, d'une certaine manière.
Peut-être pas autant qu'il l'aurait aimé.
Voilà,
c'est ça. Ça veut dire ça
comme
ça.
Mais en tout cas, c'est indéniablement la clé de... Une des clés, bien sûr, on peut pas dire que la clé, c'est pas, il y a pas une clé pour Duchamp, mais qu'une des clés, c'est bien sûr sa vie, pour son œuvre. Et de la même manière que pour son œuvre, il a laissé dire sur sa vie, d'une certaine manière, il a pas beaucoup, il s'est beaucoup protégé. Enfin, il a protégé à la fois son œuvre et sa vie. Ce qui veut bien dire qu'effectivement, et il a fini par l'admettre à la fin de sa vie. Bien sûr, il ne s'est pas levé un matin, Marcel Duchamp, en disant « je vais faire de ma vie une œuvre ». Mais en 1966, il finit par lâcher le morceau en disant « oui, sans doute, ai-je fait de ma vie une œuvre ». C'est évidemment, très important comme idée, quand même. C'est une idée qui est très banale, peut-être, puisque c'est toute la modernité un peu artistique, elle tourne autour de cette question, que ça soit Dada, que ça soit le surréalisme, que ça soit même le constructivisme, des choses qui, tout, il y a 7 ans, utopie, au fond, de réconcilier effectivement l'art et la vie, mais je pense que c'est une utopie Duchamp, c'est une petite utopie, c'est la sienne. C'est-à-dire, c'est à partir de ça, c'est véritablement sa vie, sa vie dans ses moments les plus inframains, je dirais, les plus petits, qui est une forme d'œuvre. Mais naturellement, il n'y a pas de décision. C'est ça qui est passionnant quand on retrace sa vie, c'est qu'on voit bien que c'est pas une décision, que c'est finalement au bout du compte comme ça que ça s'est passé.
Ah, c'est ce qui est passionnant aussi dans Étant donné, la revue, c'est qu'il s'agit à chaque fois d'une enquête finalement, essayant de retrouver des indices, des preuves, des éléments. Alors ça passe par des correspondances, par des photographies, qui certaines sont inédites à chaque fois dans ces numéros de la revue, des entretiens, essayer d'être au plus près de l'homme et donc des sources de première main.
Absolument. Par exemple, chaque numéro d'Étant donné commence avec un entretien avec quelqu'un qui a connu véritablement Duchamp. Dans le numéro 7 qui est consacré à Robert Lebel et Patrick et Isabelle Wahlberg, j'ai fait deux entretiens. Un avec le fils de Robert Lebel, Jean-Jacques Lebel, et aussi avec Michel Wahlberg, le fils d'Isabelle et Patrick. Et pour moi, comme pour Bernard dans son livre, on essaie de restituer un peu de chair autour du corps de Duchamp. Et je trouve, pour moi, les témoins et les souvenirs des gens qui ont bien connu Duchamp sont, pour moi, beaucoup plus intéressants et enrichissants que les analyses philosophiques, artistiques que d'autres gens inventer et essayer de présenter.
Ah, c'est justement la difficulté première, sans doute, Bernard Marcadet, de s'atteler à une biographie de Marcel Duchamp, c'est qu'il faut, d'une certaine façon, essayer de tout oublier de ce qu'on a pu écrire, dire, fantasmer sur Marcel Duchamp pour en revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire, effectivement, sa vie, son œuvre, au plus près.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est très encombré, Duchamp était très encombré de
parce qu'il a laissé faire, encore une fois, beaucoup aussi, hein. C'est aussi de son fait.
Oui, naturellement. Il a laissé proliférer toutes les interprétations. Il n'a jamais dit que c'était ni bien, ni mauvais, que c'était tout ça, finalement. Mais c'était vrai. Il fallait se désencombrer de ça, oui. Il fallait désencombrer mon regard, en tout cas, de tous ces délires interprétatifs. Parce que c'est vraiment un objet de délire, Marcel Duchamp. Et bien sûr, lui-même l'a induit, d'une certaine manière. Mais ça, c'était passionnant, justement, de revenir à ce corps, parce que finalement, bien sûr, il y a un corps étrange. Duchamp, c'est un corps étrange, d'abord. C'est-à-dire, on savait même pas, je crois, même dans les biographies, la biographie américaine de Calvin Tompkins, qui est très bonne, on savait pas très bien comme s'il était grand, s'il était... C'est très évanescent, le corps de Duchamp. Or, il a un corps, naturellement. Il a un corps dont il sert, d'ailleurs, beaucoup, même. Beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Parce que on en fait une sorte d'artiste éthéré ou d'artiste lointain comme ça, quasiment angélique, alors que au fond c'est un être de chair, de sang, de sperme. Oui, d'ailleurs, bon, on le sait ça, mais
on le sait, il y a une œuvre
qui est dédicacée à Maria Martins, donc qui est la passion de sa vie, en tout cas la deuxième passion, pour dire, puisque la femme de Picabia, c'était la première, Gabrielle. Mais bon, c'est une assez platonique. Bon, ils ont fini effectivement par se retrouver physiquement, mais très longtemps après. Tandis que la passion brûlante pour Maria Martins, effectivement, est une passion qui explique tout simplement la dernière œuvre de Marcel Duchamp, auquel il a passé quand même 20 ans,
étant donné. On va y revenir évidemment dans un instant, mais alors, revenir aux bases, c'est revenir aussi aux nombreux, très nombreux entretiens que Marcel Duchamp a donné, parce qu'il s'est jamais refusé, hein, vous le dites, et c'est vrai, aux sollicitations journalistiques. Et alors, à propos de laisser dire les idées, on va entendre dans cette émission quelques extraits d'entretiens avec Georges Charbonnier, 1960. Et alors, il y a cette première question que lui pose Georges Charbonnier.
Nous pensons, un certain jour, Marcel Duchamp s'est arrêté de peindre. Pourquoi ?
Ce n'était pas un jour, un soir à 8 heures. Ça a été une chose lente, et ça n'est même pas une chose définitive. Je pourrais, si j'avais encore la vigueur suffisante, certainement je recommencerais. Je n'ai pas fait de vœux d'aucune sorte dans ce sens-là. J'ai simplement été arrêté par le fait que mon époque, en tout cas, ne répondait plus à mes désirs personnels, dans ce sens-là.
Pourquoi cette époque ne répondait-elle pas à vos désirs?
Il y a 100 ans, il y avait quelques peintres, quelques marchands, quelques collectionneurs, et la production d'art était une forme ésotérique d'activité. Ces gens-là, ces quelques gens, parlaient un langage à eux que le grand public ne comprenait pas, que le grand public acceptait comme un langage religieux, si vous voulez, ou comme un langage de loi, par exemple, où les mots n'ont de sens que pour les initiés. Depuis ces 100 ans, tout est entré dans le domaine public. Tout le monde a parlé de peinture, non pas seulement ceux qui le faisaient, ceux qui l'achetaient ou ceux qui le vendaient, mais le grand public parle de peinture.
Mais ce qu'il y a d'ésotérique dans la production d'un art et de façon générale dans une élaboration spirituelle ou une élaboration de l'esprit quelconque, ce qu'il y a d'ésotérique dans cette élaboration ne continue-t-il pas à échapper néanmoins au grand public ? L'emploi des mots suppose des degrés de conscience excessivement différents.
D'accord, mais justement là, les ésotériques ont laissé le public se faire soi-disant initié. Il n'est pas du tout initié. Cet ésotérisme est devenu un exotérisme. Le commercialisme en art aujourd'hui a fait passer la question d'ésotérisme à exotérisme. Et alors, l'art est un produit comme les haricots. On achète de l'art comme on achète du spaghetti.
Voilà, Marcel Duchamp restitue dans sa parole même, mais en précisant que le montage est d'époque, hein, les coups de ciseaux extrêmement violents que l'on entend, c'est le montage radiophonique de cette année 1960. Alors voilà, on part sur cette idée, hein, Marcel Duchamp, le peintre qui s'est arrêté de peindre, alors il s'en explique, et on part sur autre chose, la façon dont il a pu parler d'ésotérisme. Alors voilà encore une interprétation que rien vraiment ne vient particulièrement valider par la remarque AD, comme Marcel Duchamp qui ferait tourner les tables, ça nous dépasse
sa vie. Ça, même. Voilà. Parce que quand André Breton, qui lui aimait faire tourner les tables et avoir des sortes d'activités comme ça, lui, surtout quand ils étaient aux États-Unis, ils se sont retrouvés aux États-Unis dans les fameuses années de guerre, hein, où il y avait Lévi-Strauss, il y avait Robert Lebel, il y avait énormément de gens là. Voilà, je ne dis pas que Lévi-Strauss faisait tourner les tables, lui non plus, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, Breton, oui, il recommençait les mêmes scénarios, les mêmes rituels qu'il faisait à Paris. Il avait ce rapport comme ça, et Duchamp détestait ça. Mais la manière de détester de Duchamp n'est jamais ostentatoire, c'est-à-dire que il s'en occupait pas, quoi. C'est-à-dire il n'y allait pas. Mais comme il n'a jamais appartenu à quoi que ce soit, et surtout pas au surréalisme. D'ailleurs, ça c'est. Il a imposé quelqu'un comme Dali, qui était alors l'horreur absolue pour André Breton jusqu'au bout. C'est-à-dire, il a imposé des tableaux dans les expositions, et il y a eu même des tracts contre la présence de Dali dans une exposition américaine, et Duchamp a été très, très, très ferme il défendait la présence de Dali dans cette exposition. Un point, c'est tout. Donc, il n'est pas absolument inféodé à quelconque idéologie que ce soit, surtout pas l'idéologie surréaliste.
Alors, on va retrouver tout de suite un deuxième extrait de cet entretien, parce que ça nous permettra de creuser, puis je donnerai la parole à mes camarades, mais sur l'idée que, Marcel Duchamp s'intéresse surtout à lui. C'est vrai qu'il ne fait pas grand cas du monde qui est autour de lui, hein, il le dit souvent. C'est vrai qu'il vit quand même dans une époque qui traverse des moments de l'histoire du XXe siècle qui sont terribles, et c'est vrai qu'il s'intéresse d'une façon sans ostentation, comme vous dites, mais bon, on va parler de ça, parce que je vois que ça vous fait réagir, c'était un peu le but évidemment de cette question, vous pensez bien. On le retrouve tout d'abord au micro de Georges Charbonnier.
Pensez-vous que l'aspect commercial de l'œuvre d'art soit de nature à éliminer la notion d'œuvre d'art à notre époque?
Non, pas du tout. Seulement, la question sera de savoir, pour la postérité, le choix à faire dans la production d'un tout un siècle. J'ai même des idées, probablement, de ce que des gens dans 200-300 ans pourront dire. C'est que notre siècle sera peut-être une sorte de 18e siècle. Non pas comme ressemblance, il ne se ressemble pas du tout. Mais il y avait une certaine légèreté, si vous voulez, une certaine frivolité qui n'est vraiment pas à l'honneur de l'art de ce 18e. On peut aimer Fragonard et tout ça, mais enfin, ça ne va pas très loin au point de vue profondeur. Et j'ai l'impression que notre siècle sera un peu comparable, sinon, je dis physiquement, comme valeur parmi les autres siècles. Si on dira, le 19e siècle, le 20e siècle, sera un peu frivole, n'était pas important. Enfin, comparé à la Renaissance, au Moyen-Âge, aux archaïques grecs, à tout ce que vous voulez, qui était avant et qui sera après.
La révolution surréaliste elle-même disparaissant?
Oui, elle n'aura pas l'importance qu'elle se donne.
Voilà, voilà Bernard Marcadet, comment Marcel Duchamp fait son sort au XXe siècle, frivole donc, hein.
Oui, il y a de la frivolité, il y a du libertinage beaucoup chez ma mère. Il y a du libertinage chez Duchamp, mais encore une fois, non, pas ostentatoire. C'est un dandisme, une forme de dandisme singulier qui l'inaugure d'une certaine manière. Il n'y a pas non plus de mépris. C'est-à-dire, souvent, le dandisme, il y a une sorte de caractère hautain. Chez Duchamp, il y a de la bienveillance. C'est une, comme il dit, un ironisme d'affirmation. C'est-à-dire, quand il utilise l'humour, l'ironie, c'est d'affirmation. En ce sens, il nous intéresse aujourd'hui, je pense, parce que on est passé peut-être de ce fameux ironisme négateur, qui est le grand classique, au fond, même de l'art moderne, sur lequel, Dada, c'est vraiment dans le négatif. Marcel Brotard disait d'ailleurs, est-ce qu'on peut imaginer quelque chose qui sort du négatif? Il sentait qu'il y avait quelque chose. Je pense que Duchamp, d'une certaine manière, par l'ironisme d'affirmation, il est un affirmateur. Il est bien sûr, ça vient de Nietzsche sans doute, l'affirmation de la vie, l'assentiment à la vie finalement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est dans la vie et qui a un rapport à ce qui arrive finalement. On pourrait dire un opportunisme, mais je pense que c'est un peu plus complexe que ça.
Paul Franklin.
Oui, mais surtout pas calculateur. Voilà. Et je trouve Duchamp était, et encore, tellement intéressant et séductif pour nous, parce qu'il était profondément bien dans sa peau, en fait. Et c'est pas le cas, et c'est pas la mythologie d'un artiste, en fait. Et je crois Duchamp, chacun qui a rencontré Duchamp, même en passant, garde un souvenir très très fort de lui. Et dans mon travail, ce sont ces souvenirs qui me passionnent, parce que ce sont les souvenirs qui sont tellement vivants encore aujourd'hui.